Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Au sud, la faille climatique. La conférence sur le climat, la COP29, s'est donc conclue hier sur un accord à minima, bien loin des attentes des pays du sud, sur la contribution des pays du nord à leur transition climatique. Après les Émirats arabes unis, ce sommet était organisé cette année encore dans un pays très controversé, l'Azerbaïdjan. D'abord pour son régime autoritaire et l'arrestation de ses opposants, mais aussi pour l'exploitation de ses nombreux gisements pétroliers et gaziers. Ce qui n'a pas empêché le régime de Bakou de tout faire pour essayer de présenter aux milliers de journalistes présents leur vitrine verte. C'est le reportage à Bakou de Manon Chaplin.
On est en route ce matin pour l'un des tours proposés pour les journalistes dans le cadre de la COP. On a opté, nous, pour ce qu'ils appellent ici le Green City Tour. C'est un tour donc qui a pour but de montrer à quel point l'Azerbaïdjan prend ces derniers temps un tournant écologique. Le régime cherche à contredire ceux qui critiquent l'accueil du sommet sur le climat dans un pays pétro-gazier. On a justement choisi d'assister à ce tour pour voir quel narratif le gouvernement souhaite nous présenter. Alors on s'arrête. Le premier stop, c'est pour visiter la maison des frères Nobel qui ont donné leur nom au fameux prix. Ce que l'on sait moins, c'est qu'ils ont été parmi les premiers à investir dans le pétrole azerbaïdjanais.
Nous avons commencé à exploiter notre pétrole à Bakou en 1846 avec des systèmes mécaniques. Venez, je vous montre les photos. Et ici, regardez, c'est intéressant, cet artiste peint avec du pétrole.
Tout ici montre à quel point l'exploitation du pétrole a permis le développement économique de l'Azerbaïdjan. Ça dépeint une image très positive. C'est assez étonnant de voir ça dans un tour censé montrer le tournant vert du pays. On arrive maintenant au port de Bakou, c'est l'un des ports les plus importants de la mer Caspienne. On est accueilli avec une immense photo du président Ilham Aliyev et cette inscription « Bienvenue dans le port vert de Bakou ».
Bienvenue dans notre pays, bienvenue à nos côtés. Je voudrais vous montrer ici nos différentes étapes vers un développement durable. Au niveau national, nous prévoyons de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2050.
Waouh, bravo, je suis très impressionnée.
Bon, la présentation tourne beaucoup autour de la construction d'un parc pour enfants avec des panneaux solaires sur les lampadaires. Ça paraît un peu léger.
Ce que je ne comprends pas, c'est que vos émissions de gaz à effet de serre proviennent à 71% des navires qui débarquent ici. Comment vous comptez faire pour remplacer cela ?
Très bonne question. En fait, ça n'est pas comptabilisé, car ce sont des émissions indirectes. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment de notre responsabilité, vous savez. Il faudrait construire des bateaux qui fonctionnent avec de l'énergie électrique. Bon, nous sommes en retard. Nous devons retourner sur le terrain. Merci à tous pour vos questions. Allez-y, photo de famille. Allez, venez ici. Vous aussi, venez, vous êtes nos invités.
On vient d'arriver au stade olympique de Bakou. C'est là que se tient la COP29. On a rendez-vous avec un représentant du pavillon azerbaïdjanais afin de parler des ambitions vertes du pays. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer depuis quand l'Azerbaïdjan a commencé à se tourner vers les énergies renouvelables ?
Je dirais il y a 5-10 ans. Désormais, nous avons de grands projets comme la centrale solaire de Garada ou encore différents projets éoliens. Avec ce genre de projet, nous cherchons à établir un corridor d'énergie verte à destination de l'Europe.
Vous dites d'un côté vouloir vous tourner davantage vers les énergies vertes et à la fois vous avez prévu d'augmenter de 14% votre production de gaz et de pétrole dans les prochaines années. C'est pas un peu contradictoire ?
C'est pour cela que la COP existe, non ? C'est très important pour nous de parvenir à un bon rythme de transition vers les énergies renouvelables, car le gaz et le pétrole ne dureront pas éternellement, n'est-ce pas ? Et puis, c'est le cas de beaucoup de pays. Comme l'a dit notre président, il y a aujourd'hui une demande extérieure en énergie fossile. Nous répondons à cette demande, il y a un besoin. Et comme le président l'a dit, le pétrole, c'est un cadeau de Dieu à l'Azerbaïdjan.
Un cadeau de Dieu qui n'empêche pas à l'Azerbaïdjan de tout faire pour verdir son image à l'international. en ligne, des influenceurs sont payés pour mettre en avant les quelques projets renouvelables de l'Azerbaïdjan, sans jamais mentionner toutefois que le mix énergétique du pays repose encore aujourd'hui à 98% sur les énergies fossiles. Nous avons voulu demander son avis à Javid Gara, c'est un militant écologiste, membre du collectif Ecofront. Plusieurs de ses collègues ont été arrêtés ces dernières années pour avoir contredit le discours officiel.
L'Azerbaïdjan essaye de se montrer plus vert qu'il ne l'est, car même si le pays essaye effectivement d'attirer des investissements verts, le gouvernement n'est pas vraiment intéressé par une rapide transition de l'Europe vers les énergies renouvelables.
Oui, car depuis le début de la guerre en Ukraine et les sanctions contre le gaz russe, l'Union européenne s'est tournée vers l'Azerbaïdjan pour acheter son gaz, ce qui lui rapporte beaucoup d'argent.
Oui, exactement. Par exemple, durant la COP, la Serbie et l'Azerbaïdjan ont discuté de la construction d'une nouvelle centrale de gaz en Serbie. On parle d'un investissement de plus d'1 milliard de dollars de la part de l'Azerbaïdjan. Cela montre bien que le pays cherche avant tout à aggraver l'addiction de l'Europe aux énergies fossiles.
Au lendemain de la guerre en Ukraine, l'Union européenne a signé un accord avec Bakou prévoyant de doubler les importations de gaz azerbaïdjanais afin d'atteindre au moins 20 milliards de mètres cubes par an d'ici 2027.
L'Azerbaïdjan qui négocie actuellement les conditions du cessez-le-feu et de la paix avec son voisin et rival l'Arménie. En septembre 2023, le régime d'Ilham Aliyev a en effet entièrement reconquis l'enclave arménienne du Haut-Karabakh, entraînant l'exode d'une centaine de milliers d'Arméniens. Pour Tigran Yegavian, spécialiste du Caucase, chercheur à l'Institut chrétien d'Orient, la guerre a mis un point final à un conflit vieux de plusieurs décennies.
Disons que la situation est inextricable parce que jamais le rapport de force n'a été favorable à l'Azerbaïdjan qui est dans une dynamique, je dirais, d'anéantissement progressif de l'État arménien. Parce qu'après avoir anéanti le Haut-Karabakh, l'Azerbaïdjan veut sa revanche, veut imposer une paix d'humiliation, mais sur la base de nouvelles conquêtes territoriales. Et là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les négociations de normalisation, de paix entre les deux États sont au point mort, elles n'avancent pas. 80% ont été conclus, mais il reste encore que l'Azerbaïdjan a toujours de nouvelles revendications et poursuit une stratégie de grignotage du territoire arménien, puisque 200 km² aujourd'hui de territoire très stratégique sont en main de l'armée azerbaïdjanaise depuis 2022. Et aujourd'hui, l'Azerbaïdjan réclame un corridor qui passerait donc par le
un
sud de l'Arménie.
Un corridor au sud de l'Arménie, oui, pour rejoindre l'enclave du Nakhitchevan.
On dit esclave du Nakhitchevan qui lui-même est frontalier de la Turquie. Donc les enjeux sont mondiaux parce qu'on dépasse de très loin la grille de lecture arméno-azerbaïdjanaise. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont mêlés dans cette affaire. La Turquie, bien sûr, qui est le grand frère entre guillemets de l'Azerbaïdjan, la Russie qui s'est éloignée de l'Arménie, qui s'est rapprochée de l'Azerbaïdjan à l'aune de la guerre en Ukraine notamment, les Iraniens qui sont plutôt hostiles à ce corridor parce qu'ils ne veulent pas être encerclés par des Turco-Azerbaïdjanais à leurs frontières. Donc tout cela montre que l'Arménie en fait elle est comme un funambuliste, chaque pas peut lui être fatal et aujourd'hui la question qui se pose c'est comment assurer une sorte de dissuasion contre l'Azerbaïdjan.
L'Arménie qui a perdu quand même beaucoup de soutien depuis la guerre en Ukraine, notamment le soutien russe.
Alors c'était déjà avant, la grande bascule c'est 2020. La Russie en fait s'est rapprochée de l'Azerbaïdjan pour des raisons géostratégiques, puisqu'elle se sert de son territoire comme voie de contournement des sanctions internationales. C'est-à-dire que le pétrole que les Européens, et pas tous, consomment achète à l'Azerbaïdjan en grande partie, le pétrole et le gaz provient de Russie. Donc il y a une hypocrisie monstrueuse de la part des Européens qui d'un côté diabolisent M. Poutine, et tout à fait compréhensible, mais qualifient M. Aliyev de partenaire fiable alors que ce dernier a le sang sur les mains et exerce un régime extrêmement liberticide dans son pays.
L'Arménie aujourd'hui qui veut quitter l'alliance de défense russe, cela aurait quelles conséquences ?
Alors, ce qui se passe, c'est assez inédit. En fait, la Russie et l'Arménie appartiennent à la même organisation de sécurité collective, c'est l'OCTS. C'est un peu l'équivalent de l'OTAN, en fait. La Russie n'a pas rempli ses engagements de protection de l'Arménie quand cette dernière a été agressée par l'Azerbaïdjan en septembre 2022. Il y a eu une guerre dans laquelle l'Azerbaïdjan a pris des nouveaux territoires. L'Arménie a demandé à l'aide de la Russie et de ses alliés de l'OCTS. Ces derniers n'ont pas intervenu. Du coup, l'Arménie va chercher ailleurs des garanties, parce qu'en plus, elle a acheté des armes à la Russie qui n'ont jamais été livrées. Donc du coup, l'Arménie maintenant se procure son armement à l'Inde et à la France. Alors c'est bien, mais ça ne suffit pas pour garantir une nouvelle architecture de sécurité.
D'autant que l'Arménie est quand même pied et poing liée à la Russie en termes économiques.
Elle est très dépendante encore pour ses approvisionnements énergétiques et stratégiques, l'alimentaire. La Russie, en fait, a mis la main au cours des dernières décennies sur les principaux secteurs clés de l'économie arménienne. Mais encore une fois, il n'est pas question de quitter la Russie, même si les relations politiques sont exécrables. Les relations économiques sont assez intenses à l'aune, justement, de ce conflit avec l'Ukraine. Mais ce qu'il faut, en fait, c'est rééquilibrer et essayer de comprendre comment les Arméniens peuvent faire converger leurs intérêts avec la Russie. Pour l'heure, c'est extrêmement délicat, difficile, parce que la Russie voit d'un très mauvais œil le rapprochement de l'Arménie avec l'Union européenne et les États-Unis, puisque l'Arménie essaye de diversifier en fait sa diplomatie. Et le problème, c'est que les Occidentaux ne sont toujours pas disposés à apporter des garanties de sécurité à l'Arménie. Ce qu'elle a besoin aujourd'hui, la première question, c'est l'intégrité territoriale, c'est la sécurité. La deuxième, c'est le développement économique.
Oui, et le Premier ministre Nikol Pachinian, de par la guerre avec l'Azerbaïdjan, est aujourd'hui très fragilisé sur le plan intérieur. Avec quel danger ?
Alors oui, il y a une polarisation de la société arménienne, mais le souci, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'opposition politique. Alors oui, il est clivant, il a un mode de fonctionnement qui est assez populiste, mais il faut reconnaître qu'il a été légitimement élu. Hein, qu'on le veuille ou non, l'Arménie est le pays le plus démocratique de la région, depuis la révolution de velours qu'il a portée au pouvoir en 2018. Mais le souci, c'est que l'opposition arménienne n'a pas aujourd'hui l'aune d'un plan de paix, une stratégie, une feuille de route. Il n'y a pas d'offre politique. Et c'est ça le souci, c'est qu'en Arménie, on a besoin d'une vraie dynamique politique qui puisse garantir à cet État, en fait, un avenir. Et malheureusement, l'Arménie a besoin désespérément d'alliés pour l'accompagner dans cette sortie de crise, alors que vous avez 120 000 réfugiés arméniens du Haut-Karabakh dans des conditions précaires et un avenir très sombre si M. Trump délègue la gestion du Caucase du Sud à son ami M. Erdogan. Et ça, c'est une inquiétude aussi qu'il faut prendre en compte.
Merci beaucoup, Tigran Yegavian.
Merci à vous.
Tigran Yegavian a retrouvé dans un hors-série spécial sur l'Arménie de la revue Cometa, avec laquelle nous sommes partenaires, ainsi qu'au festival Un week-end à l'Est, qui se tient jusqu'au 30 novembre à Paris. L'écologie aussi en panne dans un des pays européens où elle est pourtant la plus implantée, l'Allemagne. Suite à l'éclatement de la coalition au pouvoir dont ils sont membres, les Verts ont voté pour choisir leur candidat pour les élections de février prochain. Ce sera Robert Habeck, l'actuel ministre de l'économie et du climat. Bonjour Daniel Valo, on peut dire que cette campagne sera un sacré défi.
Oui, les Verts sont crédités de 10 à 12% des voix, en repli très net par rapport aux dernières élections. Robert Habeck en est conscient, mais il dispose de plusieurs atouts pour tenter de remonter la pente. Il a du charisme, il est très à l'aise dans ses discours comme dans ses interventions télévisées et il a des convictions sur le climat sans être dogmatique. C'est ce que nous a expliqué Éric André Martin, spécialiste de la vie politique allemande.
C'est quelqu'un qui sait écouter et qui sait reconnaître quand il y a eu des erreurs de fait ou qu'ils sont allés un peu trop vite. Je prendrai pour cela la loi sur le chauffage domestique de 2023 qui avait suscité beaucoup d'opposition dans la population, beaucoup de réticence. Il a su reconnaître que c'était pas le moment, en tout cas dans ces proportions-là, il a su reculer.
Robert Habeck est aujourd'hui âgé de 55 ans et avant de se lancer en politique, Daniel, il a été prof de philo et écrivain à succès.
Oui, et c'est à l'âge de 33 ans qu'il décide de militer pour une raison très simple, il n'y a pas de piste cyclable dans son quartier. Il devient ensuite ministre régional de la transition énergétique dans le nord de l'Allemagne. Puis en décembre 2021, il est nommé au niveau fédéral à l'économie et au climat aux côtés du socialiste Olaf Scholz. Ses objectifs sont alors très ambitieux pour la transition énergétique de l'Allemagne. Mais deux mois plus tard, la Russie envahit l'Ukraine, ce qui va changer totalement la donne.
La conséquence de la guerre en Ukraine, ça a été de priver l'Allemagne du gaz russe, un gaz à bon marché. Et donc ça a fortement perturbé le calcul politique et économique qui avait été fait au départ. Donc Robert Habeck a su réagir sur le plan énergétique en faisant preuve de pragmatisme et de réalisme, puisqu'il a très vite entamer une tournée auprès des pays qui pourraient être les fournisseurs d'énergie alternative. Donc, il est allé dans les pays du Golfe, notamment. Et donc, de ce fait, il a fait preuve d'un très grand réalisme.
Un réalisme qui lui a été vivement reproché par la gauche du parti écologiste allemand.
Oui, mais ce réalisme lui permet aussi aujourd'hui de courtiser les électeurs du centre et même d'envisager ce qui paraîtrait impensable en France, une coalition de gouvernement non pas avec les socialistes, mais avec la CDU, le parti conservateur, qui devrait arriver en tête du prochain scrutin. Une ambition réaliste et même souhaitable aux yeux de Daniel Cohn-Bendit, l'ancien eurodéputé écologiste qui a assisté le week-end dernier au congrès des allemand à Wiesbaden.
Une coalition à deux chrétiens-démocrates verts serait un compromis historique nécessaire pour faire passer, disons, la transition écologique, pour faire passer une position migratoire qui tient compte des angoisses mais respecte le droit international. Donc je crois que c'est un défi intéressant et qu'il est, de par sa personnalité et son intelligence, il est le personnage pour arriver à ce genre de coalition.
Alors, bien entendu, Robert Habeck suscite l'hostilité d'une bonne partie de la droite allemande en raison de ses convictions écologiques, mais sur d'autres sujets, il peut trouver des points de convergence, notamment sur l'aide militaire à l'Ukraine, dont il est en Allemagne l'un des plus farouches partisans.
Lors de la dernière campagne électorale, donc il y a 3 ans et demi maintenant, il a été le premier à dire qu'il fallait livrer des armes à l'Ukraine. À l'époque, tout le monde, la plupart des partis politiques, même à l'intérieur de son parti vert, lui sont tombés dessus, la CDU aussi, et c'est lui qui avait raison. Donc je crois que sur l'Ukraine, Robert Habeck a démontré une capacité de solidarité sans faille avec l'Ukraine.
Officiellement, Robert Habeck affirme qu'il vise la chancellerie, mais c'est évidemment un objectif hors de portée. Pour les Verts, son objectif sera en réalité de talonner ou même de dépasser le SPD lors du scrutin de février, avec un espoir, rester au gouvernement pour continuer sur la voie de la transition énergétique.
Merci Daniel Valo, à très bientôt. Il s'est fait un nom autour de la défense des consommateurs, ou plutôt des touristes consommateurs. Le youtubeur tchèque Janek Roubash s'est fait une spécialité de débusquer les arnaques dont sont victimes les touristes dans le centre de Prague. Déjà un peu habitué à subir le courroux des malfaiteurs, il a quand même été un peu surpris par la violence des réactions à Paris lorsqu'il a tenté de filmer les pratiques des escrocs au pied de la Tour Eiffel. Les détails avec Alexis Rosenzweig.
Des injures, des crachats et puis des coups. Janek Roubash et son caméraman Yann Mikoulet n'en menaient pas large sur le Champ de Mars, où tout un réseau plutôt bien organisé n'a pas apprécié, mais alors pas du tout, que les deux Tchèques viennent filmer leurs arnaques, principalement autour de jeux de bonneto. Pourtant, le duo pragois est loin d'en être à son coup d'essai parmi ceux qui aiment détrousser les touristes dans la capitale tchèque. Janek et Jan se sont spécialisés au fil des années dans leur traque, en filmant notamment les arnaques sur la place de la vieille ville, là où se trouve le principal marché de Noël. Leurs cibles préférées sont devenues, avec le temps, les escrocs au change de devises au noir, qui ont une fâcheuse tendance à refourguer aux candides des roubles biélorusses sans valeur au lieu de couronnes tchèques en échange de dollars ou d'euros. Ce sont d'ailleurs ces roubles qu'ils ont donnés à la plupart des escrocs croisés et filmés dans la capitale française, que ce soit aux faux collecteurs de fonds pour une fausse association d'aide aux malentendants, un grand classique, ou devant le Sacré-Cœur à un vendeur très insistant de bracelets fabriqués sur mesure. À Prague, Janek Roubash a déjà une très solide réputation et plus d'1,5 million de personnes sont abonnées à sa chaîne appelée « Le Guide Honnête », Honest Guide, et beaucoup de ses vidéos en anglais ont permis aux visiteurs d'éviter certaines des arnaques visant principalement les visiteurs étrangers. À ceux qui le traitent de mouchard quand il s'adresse à la police pour dénoncer les pratiques de certains, le youtubeur tchèque répond qu'il œuvre pour la défense des touristes et surtout pour la réputation de Prague. Il a dénoncé également certaines pratiques de la municipalité à propos, entre autres, de trafic de places de stationnement.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Jérémy Boucher. Retrouvez-nous en podcast sur notre site, sur l'application Pure Radio et les réseaux sociaux.